C'est Anne Fauquemberg pour le journal de la rédaction. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. 3 jours de deuil national ont été décrétés en Somalie, la capitale Mogadiscio, touchée par un très grave attentat, au moins 137 morts et 300 blessés. C'est un camion piégé qui a explosé hier au cœur d'un quartier très fréquenté. Les précisions de Sébastien Némette au début de ce journal. Le bilan s'alourdit également en Californie, région victime depuis une semaine de terribles incendies. Il y a au moins 40 morts et les pompiers sont toujours à pied d'œuvre ce soir, va nous dire Valentine Joubin. En Autriche, les premiers résultats de l'élection législative anticipés sont en train d'arriver. Résultat provisoire, mais le parti du conservateur Sébastien Kurz arriverait en tête avec un peu plus de 30% des voix. Nous rejoindrons à Vienne Christian Filitz. Au sommaire de dimanche et après, Julie Gacon.
Les dernières déclarations et décisions de Donald Trump sur le nucléaire iranien, les provocations de la Corée du Nord et le prix Nobel de la paix décerné à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. 3 portes d'entrée pour évoquer cette doctrine selon laquelle la bombe atomique serait la meilleure arme de dissuasion qui soit. On en parle, on en débat avec nos invités dans un quart d'heure.
Merci Julie. Et avant de vous retrouver à 18h15, gros plan sur cette longue interview d'Emmanuel Macron prévue ce soir à la télévision. Le chef de l'État semble changer de ligne pour sa communication. Analyse de Benoît Bouscarel à la fin de ce journal. La Somalie est donc touchée par l'une des plus importantes attaques terroristes de son histoire. Attentat au camion piégé hier dans une rue très fréquentée de Mogadiscio, la capitale. Le bilan ne cesse depuis d'être revu à la hausse. Au moins 137 morts et 300 blessés. Le président Farmajo a décrété un deuil de 3 jours. Sébastien Némette.
Tout le monde est unanime, c'est l'un des attentats les plus violents qu'a jamais subi Mogadiscio. Hier après-midi, un camion bourré d'explosifs s'est approché du kilomètre 5, un carrefour fréquenté où l'on trouve hôtels, restaurants et agences gouvernementales. Les forces de sécurité ont tenté de l'arrêter, mais le véhicule a forcé le passage avant de sauter. C'est la plus grosse explosion que j'ai entendue depuis des années, a réagi Abdulaziz Bilo Ali, un habitant. La déflagration a soufflé plusieurs bâtiments, laissant derrière elle un paysage de désolation fait de commerces en feu, de véhicules calcinés et de tonnes de gravats. Depuis hier, les secouristes fouillent les décombres. Leurs ambulances transportent sans cesse les cadavres et les centaines de blessés dans les morgues et les hôpitaux débordés. Des centaines de Somaliens donnent leur sang ou rejoignent le kilomètre 5 pour soutenir les secouristes. Les opérations continuent. Beaucoup de gens sont là pour aider. Le pays est sous le choc après cette attaque sans précédent, a expliqué Mohamed Osman de la compagnie d'ambulance à Amin. Le président Farmajo a décrété un deuil national de 3 jours. C'est le moment de s'unir et de prier ensemble. La terreur ne l'emportera pas, a déclaré le chef de l'État. Aucune revendication pour l'instant, mais les autorités accusent les islamistes Chebab. Quoi qu'il en soit, l'attaque soulève des questions. Les barrages sont nombreux à Mogadiscio. Les gens sont en colère. Comment ce camion a-t-il pu passer ? Se demande le secouriste Mohamed Osman.
Les précisions de Sébastien Némette de RFI pour France Culture. En Syrie, la situation semble s'éclaircir ce soir à Raqqa, ex-capitale du groupe État islamique. Les militaires arabo-kurdes des FDS ont évacué la nuit dernière les derniers 10% de la ville qui était toujours sous contrôle djihadiste. Bonsoir Mélanie Houé.
Bonsoir Anne.
Vous êtes notre correspondante en direct de Beyrouth. Les civils ont-ils été évacués?
Oui, absolument. C'est en tout cas ce qu'a donné un porte-parole des FDS qui sont sur le point de reconquérir la totalité de Raqqa. En tout, 3000 civils ont été évacués des dernières portions de territoire contrôlées par le groupe terroriste. Ils ont rejoint des zones libérées par les combattants arabo-kurdes où ils sont désormais à l'abri des bombardements et des tirs d'artillerie. Après plus de 3 ans d'occupation djihadiste, d'interdiction et de pénurie, c'est un véritable soulagement. Les habitants ont un accès régulier à l'eau, médicaments, mais également un devenir plus près aux produits alimentaires de base. Mais l'évacuation de ces civils, qui s'est déroulée la nuit dernière en accrochage, a eu un prix, puisqu'elle s'est accompagnée de la sortie de centaines de mercenaires de l'EI en vertu d'un accord conclu jeudi, mais dévoilé hier, entre le conseil civil de Raqqa, géré par les FDS, et les djihadistes par l'intermédiaire de tribus locales.
Alors justement, les djihadistes, Mélanie, parlons-en, ils avaient le choix, se rendre, partir ou rester pour mourir.
Oui, alors il est nécessaire de préciser dans un premier temps que la confusion a régné hier et règne toujours un peu sur les termes de cet accord d'évacuation, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été tous été rendus publics. Mais dans les grandes lignes, contre la libération des civils tenus en otage, les FDS ont offert aux derniers djihadistes acculés trois alternatives que vous avez précisées. Donc la reddition, être transféré, on ne sait pas où exactement, mais dans l'est de la Syrie, dans les dernières portions de territoire contrôlées par l'EI, ou rester sur place pour se battre jusqu'au bout. Alors, d'après les FDS, entre 250 et 300 djihadistes ont opté pour cette troisième option. Ils font actuellement face à la phase finale de l'offensive de l'Alliance arabo-kurde soutenue par la coalition internationale. La chute de Raqqa n'est donc plus qu'une question d'heure.
Merci Mélanie Houé pour ce point précis sur la situation à Raqqa en Syrie. Vous étiez en direct par téléphone depuis Beyrouth. La situation à Raqqa, elle est suivie de près évidemment par les autorités françaises qui craignent des retours en France de terroristes. La ministre des Armées, Florence Parly, est d'ailleurs revenue sans détour ce midi sur le plateau du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Elle est revenue sur le sort des djihadistes à Raqqa, notamment les étrangers.
Les djihadistes, pour l'instant, sont pour partie encore dans la ville de Raqqa. Et il n'est pas impossible qu'un certain nombre d'entre eux cherchent à fuir. Ça n'est pas facile, puisqu'ils sont chassés de l'essentiel des terrains qu'ils occupent. Et puis, pour la suite, ce sont les forces au sol qui seront donc, c'est-à-dire des forces syriennes, en cas particulier, qui seront en charge de ces combattants, si ceux-ci restent vivants. Et bien sûr, si il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, eh bien, je dirais que c'est tant mieux. Et si ils tombent entre les mains des forces syriennes, eh bien, ils dépendront de la juridiction des forces syriennes.
La ministre des Armées, Florence Parly, sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Aux États-Unis, la Californie est depuis plusieurs années en première ligne du réchauffement climatique et nul doute que la sécheresse extrême de cet automne attise les incendies qui sévissent depuis une semaine dans les vallées viticoles de Napa et Sonoma. Dramatiques incendies, selon un dernier bilan, il y a au moins 40 morts et 235 disparus. Bonsoir Valentine Joubin.
Bonsoir.
Est-ce que les feux sont maîtrisés ce soir ?
En partie seulement, selon le dernier bilan fourni par les autorités hier soir, près de 45% des feux seraient sous contrôle, ce qui représente un progrès significatif. Au plus fort de l'incendie, 16 foyers étaient en activité, de gigantesques brasiers qui mobilisent 10 000 pompiers. Et depuis hier soir, les vents ont légèrement faibli, ce qui leur donne un peu d'espoir. Mais, et ce n'est qu'une projection optimiste, les services forestiers et anti-incendie pensent pouvoir circonscrire les feux d'ici vendredi prochain seulement. Dans 5 jours donc, une progression lente, d'autant qu'un nouveau foyer a émergé dans le nord-ouest de cette région viticole. Sur toute la Californie, 100 000 personnes ont déjà été évacuées.
Et a-t-on une idée plus précise ce soir des origines de ces feux ?
Aucune certitude à l'heure actuelle, mais la piste la plus sérieuse, c'est que des vents violents auraient arraché des lignes électriques à haute tension et ce sont ces câbles qui auraient d'abord pris feu avant de se propager à la végétation. Ce qui est certain en tous les cas, c'est que c'est l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. 40 morts, vous l'avez dit Anne. La plupart des victimes sont des personnes âgées qui dormaient quand l'incendie s'est déclenché. Elles n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Les dégâts matériels, eux, sont aussi considérables. 90 000 hectares sont partis en fumée. C'est plus que la superficie de New York. Plus de 5 000 maisons et bâtiments détruits, une douzaine de vignobles endommagés. Mais il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences économiques. Et autre secteur touché, l'industrie de la marijuana. Une vingtaine d'exploitations ont été ravagées par les flammes.
Merci Valentine Joubin pour vos précisions. Le dérèglement climatique, il est aussi visible dans cet été indien qui touche la France depuis quelques jours. Nous y reviendrons dans la météo à la fin de ce journal. Quant à l'océan Atlantique, il est toujours en proie aux ouragans. Le dernier en date s'appelle Ophélia, classé en catégorie 3 sur 5 ce soir. Après avoir balayé l'archipel portugais des Açores, il se dirige vers l'Irlande et le Royaume-Uni. Selon les experts, cette dépression est l'une des plus importantes enregistrées dans cette partie est de l'océan. Écoutez l'analyse de Jérôme Lecoux, prévisionniste à Météo France.
On a déjà quelques idées sur la possibilité, notamment d'avoir des eaux un peu plus chaudes sur une partie donc de l'Atlantique qui pourrait se traduire par une modification de la trajectoire des cyclones avec la possibilité d'avoir quelques cyclones comme ça qui, au lieu d'avoir une trajectoire très ouest en suivant les alizés, puissent remonter un peu plus nord et être repris dans la circulation générale vers l'Europe. Donc ce genre de phénomène qui est assez nouveau pourrait effectivement, dans un climat plus chaud, peut-être devenir plus fréquent. Bon, ça reste, faut être prudent parce que là on est sur un phénomène, donc faut voir si ça se reproduira davantage dans l'avenir. Donc la prudence reste de mise, mais en tout cas dans l'hypothèse d'un climat plus chaud, on a à la fois donc ces modifications de ces trajectoires des ouragans possibles ponctuellement, et puis ces vagues de douceur ou de chaleur qui se prolongent tardivement après l'été et qui deviennent plus fréquentes au cours des mois d'octobre. Oui, ça c'est quelque chose qui est cohérent. On commence à avoir des cas concrets qui traduisent justement les modifications en termes d'événements météorologiques sur certains coins de la planète. Et effectivement, là, ça concerne effectivement l'Europe, oui.
Jérôme Lecoux, prévisionniste à Météo France. En Allemagne, c'était une élection test pour Angela Merkel, sortie victorieuse mais affaiblie des dernières législatives. La Basse-Saxe a renouvelé aujourd'hui son parlement régional et les sondages semblent se confirmer, puisqu'à l'instant, la télé publique allemande annonce que la CDU de la chancelière est légèrement devancée par les sociaux-démocrates du SPD. En Autriche, les bureaux de vote ont fermé il y a une heure environ. L'Autriche qui renouvelle son parlement et se choisit un nouveau chancelier. Bonsoir Christian Filitz.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Vienne et vous avez connaissance des premiers résultats provisoires. Sans surprise, le parti conservateur du jeune Sébastien Kurz arrive en tête.
Effectivement, le jeune chef du parti conservateur Sébastien Kurz semble donc avoir réalisé son grand objectif de devenir à 31 ans le plus jeune chef de gouvernement de l'Union européenne. En l'absence du vote des grandes villes, son parti ÖVP est crédité de plus de 30% des suffrages. Il devance de 3 points le parti d'extrême droite FPE et les sociodémocrates qui sont au coude à coude. Un grand perdant, le parti écologiste des Verts qui s'effondre et n'est pas sûr de franchir la barre des 4% pour siéger à la Chambre des députés. Il s'agit là d'une première tendance, d'une estimation à la fermeture des bureaux de vote. Avec les résultats des grandes villes, il pourrait y avoir encore quelques modifications dans le courant de la soirée. Quant aux résultats définitifs, ils ne seront connus que jeudi, après le décompte des votes par correspondance, qui pourraient encore peser dans la balance puisqu'ils sont au nombre de 800 000 sur quelque 6,5 millions d'électeurs. Ce n'est qu'alors que commenceront les grandes négociations pour former un gouvernement. Ce soir, il semble en tout cas que la grande coalition entre sociodémocrates et conservateurs est vécue. Beaucoup d'observateurs comptent sur une future alliance entre la droite et l'extrême droite.
Merci Christian Filitz pour vos précisions. Vous étiez en direct de Vienne. Avant de lancer sa délicate réforme de l'assurance chômage, Emmanuel Macron fait ce soir sa première grande interview télévisée sur TF1 et LCI. Le chef de l'État sera interrogé à 20h à l'Élysée par David Pujadas, Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Bonsoir Benoît Bouscarel.
Bonsoir Anne.
Emmanuel Macron, qui se disait partisan de la parole rare, serait-il en train de changer de cap?
En tout cas, c'est la première fois effectivement ce soir qu'Emmanuel Macron répondra en direct à des questions sur son exercice du pouvoir. Lui qui n'a pas prévu, comme ses prédécesseurs, de se prêter à échéances régulières à l'exercice de la conférence de presse bilan. Lui qui dit vouloir être au-dessus de la mêlée politico-médiatique tout en communiquant abondamment par ailleurs et notamment par l'image. Lui qui s'est permis de sauter la traditionnelle interview du 14 juillet se retrouve rattrapé un 15 octobre par ses obligations. C'est peut-être ça qu'on appelle la disruption. Bien sûr, à l'Élysée, on dit que c'est un choix, que le moment charnière dans le quinquennat est arrivé. Il n'empêche, c'est un peu contraint et forcé qu'Emmanuel Macron se plie à l'exercice ce soir, car il s'est rendu à l'évidence, à trop vouloir raréfier la parole présidentielle, il court le risque de n'être tout simplement plus entendu.
Alors même qu'il y a beaucoup de sujets à aborder.
Oui, alors tous les sujets seront sur la table ce soir, indique-t-on à l'Élysée. On parlera certainement tout à l'heure des grandes questions internationales, de l'Europe, du Brexit, de la menace terroriste, du nucléaire iranien, et puis des questions intérieures, du projet de budget pour 2018 qui arrive à l'Assemblée, des réformes de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Tout ça sera d'ailleurs une bonne façon de faire un peu comme si la réforme du Code du travail était vraiment derrière nous. Autre enjeu ce soir pour le chef de l'État, se refaire une image déjà pour enlever l'étiquette de président des riche et pour tenter de faire oublier ces dérives langagières des dernières semaines sur les fainéants ou les fouteurs de bordel. Tout ça rappelait un peu trop les grandes heures de la Sarkozy. Il est urgent de rectifier le tir. Un peu de pensée complexe sera bienvenue ce soir.
Merci Benoît Bouscarel pour votre analyse. La météo de demain, lundi 16 octobre. L'été indien se poursuit. Grand soleil partout en France et les températures toujours au-delà des normales saisonnières. 18 à Cherbourg, 21 à Strasbourg, 23 à Lille et Ajaccio, 25 à Paris et Lyon et jusqu'à 26 degrés à Bordeaux. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.